Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Toujours aux rencontres, nous sommes en présence de Rose pour l'association Terre de Lutte. Et bonjour.
Bonjour.
Alors, votre présence ici au sein des rencontres, qu'est-ce qui vous a amené à être présente?
Oui, alors avec l'association Terre de Lutte, on accompagne en fait des collectifs dans les territoires qui se mobilisent sur des luttes locales contre des projets polluants et imposés partout en France. Donc on est une association qui existe depuis 5 ans environ et on a réalisé avec Reporter, le média de l'écologie, une cartographie des participatives des luttes locales en France. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quasiment une lutte à côté de chez tout le monde, puisque selon les moments, il y a entre 500 et 600 luttes qui sont cartographiées sur Reporter. On se rend compte que ces questions-là, elles sont vivantes un peu partout autour de nous. Et ça, c'est aussi du fait qu'en fait, des projets polluants et imposés naissent aussi tous les jours et arrivent sur la table des collectivités, des maires. Et bien souvent, en fait, au détriment d'une information partagée aux habitants et habitantes. Et donc, pour nous, l'écologie au quotidien, c'est quelque chose auquel on contribue en soutenant ces luttes partout en France. Et une écologie qui, selon nous, se doit d'être absolument sociale, au sens où, pour nous, une écologie doit être démocratique aussi. Et une démocratie se doit d'être écologique.
Alors, il y avait cette présence aussi sur le plateau hier lors de cette conférence sur s'engager et lutter pour un avenir désirable. C'est en quelque sorte votre fer de lance.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu l'occasion de s'exprimer et de présenter l'association hier. Grâce à Maxime Zucca et Alessandro Pignocchi qui étaient présents et qui connaissent bien notre travail. Aussi parce que on a forcément des terrains de jeu en commun, puisque eux deux sont tous les deux naturalistes et engagés notamment dans un collectif dont ils ont mentionné le nom qui s'appelle les Naturalistes des Terres. Et pour nous, les Naturalistes des Terres, typiquement, ça fait partie des réseaux outillants qui viennent soutenir les luttes avec des expertises en fait qui sont absolument clés, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais les activités de notre association pour soutenir ces luttes, elles sont diverses et variées. On accompagne sur le plan juridique, puisque il faut savoir que les recours juridiques sont mobilisés à peu près à 80% par les luttes locales. On accompagne aussi sur la mobilisation, donc les stratégies de mobilisation, qui peuvent être multiples, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'organiser des manifestations, mais on peut aussi travailler à l'interpellation des élus, les rassemblements, j'ai déjà dit les recours juridiques évidemment, les moments d'action directe, et puis pour aller parfois jusqu'au sabotage, pour empêcher aussi l'avancée de certains travaux, quand malheureusement les promoteurs poursuivent, malgré le fait que des jugements soient par exemple en cours. Et donc, par rapport au recours, en fait, il est hyper important de bien connaître les dossiers. Et ça demande une expertise à la fois sur le plan juridique, mais aussi en fait sur le plan naturaliste, puisque régulièrement, on trouve des failles au dossier sur ces questions-là, puisqu'en fait, la réglementation en lien avec les normes environnementales est souvent non respectée, voire carrément bafouée par les promoteurs.
Alors ça, c'est un combat quotidien, j'imagine. Vous portez assistance donc à des personnes ou des groupes qui justement tentent de protéger, de préserver leur biodiversité locale. Et comment s'articule votre action auprès d'elles, de ces groupes ou de ces personnes? Et quels sont les moyens justement que vous avez pour pouvoir remédier à ces situations?
Alors, je pense que ce qui est important de dire, c'est que vous avez mentionné la volonté de préserver une forme de biodiversité locale. Je pense qu'à ce stade, c'est important peut-être de préciser aussi la constitution de ces collectifs qui luttent, puisque en fait, ce qui est intéressant, on a constaté, puisqu'avec Terre de Lutte aussi, on soutient... comment dire, on soutient l'existence de plusieurs études, enfin la réalisation pardon, de plusieurs études sur les dernières années. Une première il y a quelques années avec Kevin Vaché autour de qui s'est appelé les David contre Goliath. Donc voilà, où on explique comment est-ce qu'on lutte contre les grands projets tout en étant tout petit. Et plus récemment sur les victoires des luttes. Donc on a nommé quand la lutte l'emporte et où on a recensé 162 luttes victorieuses sur les 10 dernières années. C'est important de le dire aussi parce que en fait on ne parle souvent que des très grandes luttes comme le Larzac, Notre-Dame-des-Landes ou Plogoff, mais en fait c'est important de se dire qu'en fait il y a aussi de nombreuses petites luttes qui existent et qui arrivent à leur fin. Et donc pour en revenir sur les collectifs en lutte, en fait généralement il y a peu de personnes qui se nommeraient écolo. Qui contribuent à ces luttes en fait. C'est souvent plutôt des personnes qui se considèrent comme des habitants-habitantes et dont le premier moteur de contribution ou d'engagement, c'est le sentiment de déni de démocratie. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que finalement, ces luttes, c'est pas seulement une lutte pour préserver la biodiversité, bien que ce soit évidemment très important, mais c'est avant tout aussi une question de pouvoir habitant. Finalement, d'être en capacité de pouvoir s'exprimer par rapport à un avenir désirable et viable sur son territoire. Pour les accompagner, du coup, comme je vous le disais, nous, à la fois, on a accès à un certain nombre de personnes expertes, donc par exemple, que ce soit sur l'hydrogéologie, sur des juristes qui vont pouvoir décrypter le droit, comme je le disais encore, plutôt des naturalistes, etc. Et aussi, on va avoir accès à tout un réseau de personnes qui ont contribué à des luttes et qui ont donc l'expérience, et donc qui ont une expertise vraiment liée à cette expérience. Et ce dont on se rend compte en plus, c'est que généralement, on est un peu mordu quand on commence à lutter. On ne s'arrête pas à sa première lutte et donc on a souvent facilité à partager le retour d'expérience avec d'autres luttes pour les accompagner. On a aussi des cas où typiquement en fait des luttes sont victorieuses et donc un projet est abandonné et en fait le promoteur décide d'implanter le projet ailleurs en France. Et donc dans ces cas-là, souvent ce qu'on voit c'est qu'il y a un transfert de compétences entre luttes qui se met en place et donc ça c'est super important. À ce titre, on a aussi beaucoup contribué en fait, à l'émergence de coalitions de lutte, donc des coalitions qui peuvent être thématiques ou régionales. Parmi les plus connues, je peux citer la Déroute des routes ou encore RAFU contre les fermes-usines. Et ces coalitions, ce qu'elles permettent, c'est de regrouper des acteurs partout en France qui ont en fait, le même type d'objet de lutte et qui vont donc pouvoir en fait, se partager des connaissances pour tout simplement essayer d'optimiser leurs chances de gagner contre ces projets.
Alors, votre raison première, justement, c'est d'agir contre la bétonisation des terres. C'est une lutte qui a beaucoup d'écho aujourd'hui, maintenant, mais qu'en est-il dans la réalité? Est-ce qu'il y a toujours cette tension, toujours cette mainmise de bétonneurs sur les territoires?
On constate qu'en fait, les projets d'artificialisation sont toujours de plus en plus nombreux. Comme je vous le disais, je reparlais là de l'étude qu'on vient de mener donc avec Gaëtan Renaud, ainsi qu'une équipe de chercheuses à l'ENS. Ce qu'on a constaté, c'est que parmi les luttes victorieuses, en fait, je me penche là-dessus, c'était à peu près un tiers de luttes en zone urbaine, un tiers de luttes en zone agricole et un tiers de luttes en zone naturelle, dite naturelle, donc complètement, relativement préservée. Et donc c'est intéressant de voir que l'appétit en fait pour le béton se retrouve partout, même dans des zones alors que l'on sait qu'en fait on a de plus en plus de mal à avoir des espaces qui permettent justement d'avoir des couleurs de biodiversité, etc. L'appétit des promoteurs se trouve aussi à ces endroits-là. On a des exemples typiques avec notamment les stations de montagne où il s'agit de construire toujours plus haut des remontées, etc. dans des zones qui sont parfaitement exempte de béton à ce stade. Et en fait, ça continue tout simplement.
Alors, il y a des luttes contre des projets, mais il y a aussi... est-ce qu'il y a des rencontres aussi auprès des décideurs, de politiques ou de collectivités aussi pour leur ouvrir le regard sur ces bétonisations à outrance ou parfois prises à défaut, par exemple on cite des implantations de construction béton sur des sites Natura 2000 alors que a priori ça devrait être interdit, malgré tout certaines préfectures autorisent. Alors il y a aussi un combat contre ces institutions.
Alors ce qu'on constate également, c'est que finalement les porteurs, on va dire, des projets contre lesquels on se bat sont aussi assez divers, puisque pareil, toujours, hein, je reprends cette étude puisqu'elle vient de sortir, donc ça nous tient à cœur aussi de diffuser ces informations, mais on a constaté qu'on avait un tiers de porteurs qui étaient de l'ordre du privé, un tiers des porteurs publics et un tiers des porteurs mixtes. Et on a interrogé, donc sur les 42 collectifs qui ont été interrogés, aucun n'a réussi à rentrer en contact et en dialogue avec le porteur. Donc c'est extrêmement difficile en fait de créer un débat et encore plus de créer un espace de dialogue fécond avec les porteurs de projets.
Alors, si le dialogue n'est pas possible, quel type d'action envisagez-vous en restant quand même dans les limites de la légalité? Est-ce que c'est toujours possible?
Alors ça, c'est toujours effectivement au choix du collectif hein, qui élabore sa stratégie et donc pour lesquels nous, on peut faire soutien. Mais en aucun cas, on sera décisionnaire en dernière instance. Et donc, comme je vous le disais, bah, effectivement, les modalités d'action, elles sont extrêmement variées. Donc, même si le débat n'est pas possible, ça ne nous empêche pas de faire de l'interpellation, donc d'interpeller effectivement les pouvoirs publics et de les rappeler à leur mission première. On peut évidemment faire des recours, comme je vous le disais, 80% des luttes font des recours. Cependant, les recours sont onéreux puisqu'il faut souvent faire appel à des avocats, etc., qui, même s'ils pratiquent des tarifs solidaires, n'en restent pas moins des frais importants pour une lutte. Et donc, finalement, pour financer, ce qu'on fait, c'est de la mobilisation à travers des rassemblements, des événements, la venue d'experts aussi, et ça, c'est hyper important. En fait, on constate que les luttes font venir des personnes qui sont capables d'expliciter aussi en fait pourquoi c'est important de lutter contre tel ou tel projet et quels sont aussi les dessous des cartes d'une certaine manière en fait et donc ça contribue aussi à une forme d'empuissancement sur le territoire par la compréhension de la complexité des enjeux et ça souvent c'est des moments qui font salle comble en fait et qui permettent aussi de se retrouver et puis des moments conviviaux. Évidemment, des mobilisations d'ampleur différentes selon les moments de la lutte, parfois plutôt pour réunir en local, parfois pour créer de la visibilité nationale. Il y a le fait de jouer également avec les ressorts médiatiques, donc soit pour tout simplement communiquer autour d'une mobilisation ou parfois communiquer en amont d'un recours. Par exemple, on a le cas de l'escargot de Quimper qui est une espèce protégée et qui avait été justement identifiée par des naturalistes à Langoélan, là où il y avait l'implantation d'une ferme-usine qui était prévue, enfin deux poulaillers géants. Et en fait, ils ont pu dévoiler la présence de cet escargot à quelques jours du passage au tribunal. Il y a eu un relais médiatique et ça a permis en fait, de faire basculer l'opinion publique et donc de contribuer aussi à une sortie victorieuse de ce recours. Voilà parmi les exemples. Et ensuite, effectivement, vous mentionnez la question de la légalité. Encore une fois, je vous disais, c'est à la main des collectifs. Certains collectifs décident de passer sur du sabotage pour empêcher parfois des travaux qui sont eux-mêmes illégaux de se poursuivre parce que malheureusement une fois qu'un arbre est coupé ou qu'un mont a été terrassé, on peut pas revenir en arrière quand bien même le promoteur n'en a pas le droit en fait, c'est souvent le cas, ça se produit, on l'a vu là avec la 69, aujourd'hui il y a un recours, l'affaire est toujours en cours et pourtant les travaux continuent, les arbres ont été coupés et rasés et voilà donc parfois, malheureusement, la justice a une temporalité qui ne correspond pas à celle des promoteurs. Et donc, il est parfois nécessaire d'agir pour s'en préserver.
Et bien justement, cette action vis-à-vis de la justice, est-ce que vous avez des ponts qui s'établissent justement? Il y a la formation de magistrats également. Est-ce que tous ces aspects-là, vous abordez cette question et envisagez des perspectives dans ce sens?
Alors, au sein de l'association, aujourd'hui, on ne travaille pas sur des dimensions de plaidoyer. Donc, ce ne sont pas des terrains qu'on occupe. D'autres s'en chargent, sans doute, j'en ai pas la connaissance. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est qu'on essaye de viser une montée en compétence en fait, des personnes dans les luttes et surtout une montée en autonomie aussi sur ces enjeux juridiques. Et donc, c'est pour ça qu'on va publier là, d'ici quelques semaines maintenant, début avril, un manuel concernant les luttes, en fait, un manuel juridique pour outiller les luttes, qui va sortir donc en avril. Et l'intention derrière ce manuel, c'est vraiment de pouvoir aider tout un chacun à décrypter le droit de l'environnement et à comprendre en fait quelles sont nos possibilités d'action pour endiguer en fait des projets dont on ne veut pas sur notre territoire.
Alors, il y a l'individu aussi face à toutes ces problématiques, parfois démunis ou égarés. Est-ce que vous avez un moyen justement d'aller vers ce public ou est-ce qu'il lui-même a ce moyen d'aller vers vous ?
Alors, je pense qu'une des meilleures réponses, au final, c'est ce qui se passe sur les territoires. Hein, et on le voit ici aux rencontres écologie au quotidien de DI. Voilà, c'est des moments justement où on peut se rencontrer, se retrouver, échanger, s'interroger aussi, apprendre, comprendre. Donc nous, on encourage évidemment la tenue d'événements plus ou moins populaires, plus ou moins festifs, partout où c'est possible. Ensuite, Terre de Lutte, on a initié aussi un grand rassemblement qui s'appelle Les Résistantes, dont la première édition a eu lieu en août 2023 sur le Larzac et qui a rassemblé à peu près 8000 personnes.
Voilà, Erdiway était présent aussi, il tenait un studio à l'époque.
Voilà, ouais. Et donc pendant plusieurs jours, il y a eu des dizaines et des dizaines d'ateliers de formation. Et cet espace-là était un espace accessible à prix libre et qui était accessible à tout un chacun. Et donc c'est aussi à travers ce type de rassemblement dont l'expérience se réitère cette année, puisqu'il y a d'ores et déjà une coordination qui s'est lancée dans l'organisation donc d'un deuxième opus des Résistantes qui aura lieu du 8 au 10 août dans l'Orne cette année. Et donc c'est typiquement ce type d'espace où on peut venir à la fois apprendre, rencontrer et s'interroger tous ensemble.
Alors, on peut se rendre compte à l'heure actuelle, internationalement, que tout bascule et pas dans le bon sens. Qu'est-ce que ça vous fait éprouver, justement, comme sentiment sur cet aspect-là? Et puis, on reviendra un peu. Il y a l'international, le national aussi, où l'ADEME ou l'Agence Bio sont des systèmes qui sont mis à mal, voire peut-être à disparaître. Donc, quel est votre sentiment là-dessus?
Au niveau international, c'est sûr que globalement, on est très inquiet. On constate que ça se durcit à plein d'endroits et une montée clairement des autoritarismes, du totalitarisme et voire du fascisme aussi. On voit aussi que les personnes élues au pouvoir, là je pense notamment à Milley ou à Trump sur le continent américain, sont depuis toujours climato-sceptiques et donc ont un rapport à ces questions-là qui est vraiment très défavorable. Il y a un article récemment qui est sorti dans Mediapart qui était extrêmement intéressant, qui expliquait comment la politique de Trump nous emmenait de manière incontournable, inéluctablement plutôt, vers une planète à plus de 1,5 degré. Et donc comment finalement, en faisant le choix de Trump, les Américains nous avaient mis à l'amende et vers des dégradations dont on sait que, on ne connaît pas bien exactement les conséquences, mais on sait que les conséquences sont désastreuses pour l'habitabilité de la planète. Tout ça nous inquiète énormément, d'autant plus qu'on voit que l'Europe a beaucoup de mal à réagir et à se positionner en contre des propositions ou des politiques émises à l'étranger. Et on le voit notamment sur les enjeux du numérique, ça se traduit à cet endroit-là, mais comme à plein d'autres endroits.
Alors, il y a, pour l'adresse des particuliers ou des collectifs, des formations que vous proposez. Alors, en quoi consistent-elles et comment peuvent-elles mettre en place dans des territoires ?
Les formations, elles sont vraiment à destination plutôt des collectifs qui luttent et qui sont déjà constitués. Cependant, ça peut vraiment être aussi dès le démarrage d'un collectif, justement pour l'aider à envisager sa stratégie sur du moyen à long terme. Et donc on fait de la formation à la communication, comme je vous le disais, à la stratégie, mais également à la mobilisation. Globalement, on intervient, soit des membres de l'équipe de Terre de Lutte, soit des personnes de notre cercle proche, pour pouvoir délivrer ces temps de transmission. Et de plus en plus aussi, on est dans des perspectives de créer des ateliers ou des temps aussi vraiment pour outiller qui vont au-delà d'un simple moment vraiment de formation. Et notamment, on lance un peu une dynamique, comme je le mentionnais hier, sur les dimensions vraiment de résistance sur les territoires. Et donc, c'est aussi un endroit qui va être important pour nous à mobiliser, aussi à travers des choses qui dépassent vraiment le scope de la lutte pure et dure, pour vraiment s'élargir à la notion de mise en place de réseaux de soutien et d'entraide. Et donc, voilà, là-dessus, on est en train de phosphorer actuellement, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais on y travaille.
Et justement, il y a cette unité internationale du fascisme, on voit aux États-Unis, en Amérique du Sud également. Même au niveau européen, il y a des ponts qui s'établissent, hein, entre l'Autriche, l'Italie, l'Angleterre peut-être, et l'Allemagne également. Qu'est-ce qui peut réconforter l'habitant, le particulier ou le collectif pour essayer justement d'aller au-devant de ces personnes qui votent pour l'extrême droite, notamment et particulièrement dans les milieux ruraux. D'ailleurs, on peut constater peut-être un exode rural, plutôt urbain, je dirais, de cette politique ou de cette mentalité fasciste dans les campagnes.
Alors, je suis loin d'avoir la réponse, sinon les choses seraient trop simples.
Mais est-ce qu'il y aurait des conseils, peut-être, pour essayer d'aller au-devant de ces personnes et d'établir un nouveau dialogue ?
En tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu une diabolisation de l'écologie sur les 20 dernières années, qui fait que beaucoup de personnes qui ont des modes de vie et des pratiques qui, en fait, relèvent d'une forme de vie écologique ont beaucoup de mal à s'en reconnaître, voire en fait plutôt veulent la tenir loin d'eux, puisque l'écologie, elle a été diabolisée comme quelque chose d'urbain, comme quelque chose appartenant aux élites intellectuelles, et donc quelque chose qui serait toujours une remise en question critique des choix ou parfois des non-choix, puisque concernant par exemple la mobilité, on n'a pas toujours le choix que de prendre ou pas sa voiture. Concernant son alimentation, on n'est pas toujours en mesure, la plupart des Français ne sont pas en mesure d'avoir une alimentation bio, même s'ils le souhaiteraient. Et donc ce jugement qui a pu être cultivé au sein d'un certain type de l'écologie est repris à son compte par l'extrême droite pour la diaboliser et aussi pour toujours opposer la question de l'écologie et de l'économie et de l'emploi. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent sur le plan économique et qui sont très porteurs, puisque ce sont potentiellement des centaines de milliers, voire millions d'emplois qui pourraient être créés pour accompagner la redirection écologique dans notre pays. Donc je pense qu'il y a vraiment le besoin de quelque part se distancier aussi d'une revendication écolo pour plutôt vraiment partir des préoccupations et des besoins rencontrés et des difficultés rencontrées par les gens sur leur territoire. On voit aussi qu'on est face à de plus en plus d'événements entre guillemets naturels dévastateurs. Enfin là, je pense que Rennes a encore les pieds dans l'eau actuellement. Et donc on voit qu'on va avoir besoin de beaucoup de solidarité dans des moments où en fait il ne s'agit pas de se revendiquer écolo ou pas, il s'agit simplement d'organiser l'entraide et de faire ensemble face à des catastrophes ou des situations sur lesquelles nous n'avons pas la main. Et je pense que c'est ça qui est très difficile aujourd'hui, c'est comment ne pas se démobiliser et comment penser à faire ensemble quand en fait ce qui nous arrive nous semble si éloigné ou alors des endroits où on pense ne pas avoir de pouvoir d'agir. Et je pense que moi je crois beaucoup à la notion de pouvoir habitant et de se dire qu'en fait d'arrêter de penser ou arrêter de laisser notre avenir entre les mains des politiques et vraiment se dire qu'en fait la politique c'est nous qui devons la faire et qui pouvons la faire en fait et qu'on a ces espaces-là et qu'il suffit d'une certaine manière de les investir et ça demande effectivement du dialogue, du faire ensemble et de s'intéresser en fait à ces questions-là. Et ça aussi, c'est évidemment, on n'est pas tous égaux face à ça puisque selon si on élève une famille, combien d'emplois on a, parce que parfois pour boucler la fin de mois on est obligé de travailler matin, midi et soir, il y a aussi cette conscience de comment fait-on pour que ce soit que cet accès à une forme de démocratie renouvelée il soit équitable aussi, comment on s'organise pour que les personnes puissent y accéder.
Il y a webinaire, alors ça c'est une proposition qui permet quoi à vos yeux pour...
Ouais. Alors avec Terre de Lutte, on a décidé d'animer et d'autres alliés également, on a décidé de lancer un cycle de webinaires. Tout simplement parce que ça nous semble important en fait de faire venir des penseurs et des chercheuses qui ont des choses à nous raconter sur les enjeux de notre époque. Et donc la semaine dernière, je crois que c'était, on a fait venir notamment Benoît Coquart, qui est sociologue et qui a fait sa thèse, puis qui a fait paraître un livre sur la question des ruralités, et pour discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut décrypter ce qui est en train de se passer à l'échelle de nos territoires, et notamment cette montée, comme vous le disiez, du vote pour l'extrême droite, en faveur de l'extrême droite. D'où ça vient et comment ça se caractérise. Et donc voilà, typiquement, c'est des temps où on a quelqu'un comme ça qui vient nous expliquer. Ensuite, on a un temps d'échange avec les auditeurs, auditrices du webinaire. La semaine dernière, on était plus de 200 en ligne et les gens peuvent poser leurs questions. Et puis voilà, c'est aussi un temps tout simplement d'interconnaissance.
Rose, vous-même, qu'est-ce qui vous a incité à agir ? Et est-ce que c'est de par votre formation aussi ? Vous aviez cette envie très tôt d'aller vers un bon sens. Enfin, je ne sais pas si on peut parler du bon sens, parce que même ça, c'est ambigu. Mais d'aller œuvrer justement pour le plaisir, tout simplement, de vivre sur cette planète.
Oui et non. Je pense que ça a toujours été en moi. Cependant, ça fait moins d'une dizaine d'années, moi, que je me considère vraiment comme militante. Et c'est aussi la rencontre, en fait, d'autres modes de vie. J'ai eu l'occasion de passer un peu de temps, notamment sur une ferme paysanne, qui a été assez instructif pour moi aussi de comprendre les enjeux auxquels étaient confrontés nos paysans et nos paysannes aujourd'hui. Notamment en termes de manque de moyens, alors que elles nous nourrissent et nous nourrissent d'une manière qui, moi, me semble pertinente et qui fait santé surtout, mais qui fait peu santé pour elles dans leur manière de vis-à-vis des moyens dont ils disposent. Et puis ensuite, le fait de vivre aussi sur des lieux de lutte ou d'aller à la rencontre de personnes qui avaient toute cette expérience à partager et de se rendre compte en fait que c'est à la portée de tous et toutes. Et je crois que moi, c'est aussi ça qui s'est passé pour moi. Voilà.
On apprenait hier aussi qu'en Angleterre, des activistes écologistes ont été condamnés à la prison. Est-ce que vous avez conscience aussi des enjeux à laquelle vous vous présentez aussi, et c'est aussi une réflexion qui se trouve au sein de Terre de Lutte?
Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, donc merci pour ça. Parmi les formations qu'on donne et parmi les soutiens qu'on apporte, il y a évidemment l'antirépression et la sécurité des individus, et la sécurité collective et la sécurité numérique. Donc on forme un maximum aussi pour essayer que les personnes se fassent le moins réprimées possible, d'autant plus avec une violence de la police qui augmente d'année en année, contre laquelle on essaye de se prémunir. Oui, on est bien conscient de ça et on essaye d'être le plus accompagnant possible, aussi dans le soin a posteriori. C'est un peu une culture qui s'instaure ces dernières années dans les mouvements militants. Comment est-ce qu'on prend soin de nos militants, militantes, avant, pendant et après? Et donc oui, bien sûr, d'autant plus qu'avec effectivement la montée de l'extrême droite et des idées en lien avec l'écologie qui sont souvent diamétralement opposées à celles qu'on porte, on sent bien que la répression augmente et que certains groupuscules cherchent aussi à se faire justice eux-mêmes sur ces questions-là, et donc que ça peut représenter un vrai danger pour nos militants et militantes.
Faut-il avoir peur ou avoir du courage ?
Moi, je vous répondrai qu'il faut du courage, évidemment, et de la lucidité, et qu'on a besoin d'être fort et forte ensemble, et donc de se reconnaître. Et je pense aussi que, en tout cas, ce que je constate dans une certaine partie de la gauche et de l'écologie, c'est souvent des conflits larvés ou le fait de vouloir un peu défendre sa chapelle. Et je pense qu'on doit dépasser ces clivages-là aujourd'hui et que c'est important de reconnaître que finalement... on doit aller, alors c'est pas forcément vers une convergence, mais plutôt de nouer des alliances et de reconnaître aussi les singularités de manière de lutter ou de se positionner de chacun chacune, et les désaccords, et plutôt de les mettre au travail et de synchroniser nos actions.
Rose, merci beaucoup d'être venue nous donner quelques paroles à Erdiwa. Je rappelle juste aux auditeurs qu'il existe un site internet, Terre de Lutte, et on peut y trouver toutes les informations pour se documenter, s'informer et découvrir aussi.
Oui, et j'en profite aussi pour parler d'un autre site qui existe, qui s'appelle luttelocale au pluriel.fr, sur lequel vraiment on a pensé avec d'autres l'outillage pour des personnes qui souhaiteraient ou qui sont déjà engagées dans des luttes locales près de chez eux.
Le maillage de Terre de Lutte ou de cette structure aussi, est-ce qu'il est assez conséquent sur le territoire national? Est-ce qu'il y a facilité de pouvoir vous aborder ou d'avoir des relais?
Bah, le mieux, c'est de nous écrire. Donc là, vous avez effectivement contact@terredelutte.fr. Et en fait, on a soit des personnes de l'équipe qui sont à différents endroits en France, mais comme je vous le disais, c'est surtout un réseau en fait, de militants, militantes qu'on peut facilement mettre en lien avec les personnes sur leur territoire.
Merci beaucoup, Rose. Bonne soirée.
Merci.
Is the rationale that this is the place, actually the place.